Ephraïm Herrera, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes docteur en histoire des religions et spécialiste du djihadisme. Vous avez d'ailleurs publié un livre à ce sujet qui s'intitule « Le djihad, de la théorie aux actes ». Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, eh bien, on va parler de la reconnaissance ou non par l'Union européenne du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran comme organisation terroriste. La semaine dernière, en effet, le Parlement européen a adopté à la majorité absolue un appel au Conseil de l'Union européenne pour ajouter les gardiens à la liste des organisations terroristes. Et ce lundi, justement, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis pour en discuter. L'Allemagne et la France hésitent à approuver cette mesure de peur que cela n'aboutisse à l'enterrement définitif des efforts de relance de l'accord nucléaire, mais justement, ces efforts ne sont-ils pas déjà au point mort ?
Ils sont plus qu'au point mort, parce qu'en fait, l'Iran a comme conception de dominer le monde, c'est-à-dire que le chiisme domine politiquement et juridiquement le monde, et ils veulent le faire par le biais de l'exportation de la révolution iranienne par des organisations terroristes qu'ils financent, et ils veulent devenir un état de seuil nucléaire, c'est-à-dire arriver à être capable de produire une arme nucléaire, même s'ils ne la produisent pas, pour ensuite arriver à une situation dans laquelle les États européens, ne voulant pas rentrer dans une guerre atomique, diront « on va les laisser faire ». D'où le grand danger de laisser l'Iran et surtout les gardiens de la révolution qui ont le monopole du sujet nucléaire en Iran. Il faut bien le savoir, ceux qui ont le monopole de tout le développement nucléaire, tant civil que militaire, et donc le mettre sur la liste des organisations terroristes, c'est un devoir que l'Europe aurait dû remplir depuis bien longtemps.
Et pourtant, on voit que la France et l'Allemagne sont tous les deux hésitants par rapport au fait de mettre justement les gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Alors, des responsables iraniens ont affirmé que si l'Union européenne plaçait justement les gardiens sur cette liste noire, ça constituerait une déclaration de guerre à l'Iran. Quelles seraient alors les conséquences ?
Oh ben, ils menacent, en fait, c'est un pays faible, l'Iran, mais ils menacent, ils ont rappelé que l'Occident est rentré de manière pas très intelligente dans deux guerres mondiales, elle n'a pas appris de ses erreurs et qu'ils en assumeront les conséquences. Donc ils menacent indirectement d'une guerre mondiale. En fait, ils ont des armes qui permettent d'atteindre l'Europe aujourd'hui, et avec des roquettes, des missiles plutôt, qui ont une portée de 2000 km. Donc ils ont de quoi mettre à exécution leurs menaces, mais disons que face à la puissance occidentale, y compris à la puissance des États-Unis, ces menaces sont lettre morte. C'est un pays qui est pauvre à la base, c'est-à-dire qu'ils ont des ressources, mais un embargo fort a été posé par les États-Unis, et donc ils ont un vrai problème, et on voit bien que leur monnaie aujourd'hui est au plus bas, dévaluée au plus bas, et comme c'est un pays qui n'est qu'à 50% iranien, et avec d'autres minorités, arabes, Boulouchi, Azeri et autres, il y a une instabilité à l'intérieur du territoire, d'autant plus que ces gardiens de la révolution, en fait, ont le monopole de l'économie pratiquement. Ils reçoivent 20 milliards par an du gouvernement, c'est eux qui dirigent la plupart des grandes sociétés, y compris tout ce qui concerne l'armement et son exportation. L'exportation et l'importation de biens, tout est entre leurs mains, les communications. C'est un organisme très, très, très puissant. Mais en fait, au niveau des menaces, ce sont des menaces vides. L'Europe et les États-Unis peuvent écraser l'Iran relativement facilement, sauf si on les laisse atteindre le nucléaire.
Donc des menaces vides finalement, mais alors justement dans le sens inverse, l'Union européenne qui mettrait les gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran sur la liste des organisations terroristes, est-ce que ça pourrait justement avoir des conséquences positives sur l'Iran qui est pris en otage finalement par ces gardiens de la révolution ?
Je vais vous dire, il y a une ouverture qui existe dans l'islam chiite et qui existe aussi dans l'islam sunnite, qui est la faiblesse des croyants. Quand la guerre Iran-Irak a été arrêtée, alors les Iraniens ont déclaré, vu que nous n'avons pas les moyens de vaincre l'Irak, alors nous faisons un cessez-le-feu. C'est le modèle de Hudaybiyah de Mahomet, le fondateur de l'islam, qui dit que quand l'islam est faible, alors il fait une trêve qui est appelée à être rompue de manière unilatérale pour se renforcer. Donc il y a cette optique, il y a cette possibilité. Mais au XIXe siècle, par exemple, l'Iran, par deux fois sous la pression des ayatollahs, a attaqué la Russie, a perdu des territoires immenses. Tout le nord de leur pays, l'Azerbaïdjan, etc., qui étaient des territoires iraniens qui ont été perdus parce que les ayatollahs ont fait pression sur le Shah d'Iran de l'époque. Et ils ont perdu des guerres, ils ont perdu des territoires. C'est-à-dire que souvent, dans l'islam chiite, on voit une conception qui, d'un point de vue occidental, n'est pas rationnelle. Donc il y a toujours ce danger d'un pays qui peut agir de manière irrationnelle. Et en plus, un autre point important, c'est que du fait qu'ils soutiennent le Hezbollah de l'Irak, le Hezbollah au Liban, ils soutiennent le FARC en Colombie, ils soutiennent les Houthis au Yémen, et ils leur donnent des armes. Ils ont des forces à l'extérieur de l'Irak qui peuvent mettre à exécution des actes terroristes dont on aura du mal à les accuser parce qu'ils vont dire « c'est pas nous, ce sont les Houthis, c'est le Hezbollah, ce sont des organisations qui elles sont reconnues déjà comme terroristes par la plupart des pays ». Les Houthis ne sont pas reconnus comme terroristes par les États-Unis, bien qu'ils leur fassent des grands dommages. Donc il y a aussi cette possibilité, et l'Europe est très faible par rapport à des attentats qui risquent de faire des morts chez les civils et créer une insécurité. Ça, c'est une possibilité qui peut se produire. Ça a été le cas, par exemple, en 92 en Argentine, à Buenos Aires, où le Hezbollah libanais a fait des attentats contre... la communauté juive. Donc, c'est des choses qui peuvent se passer.
Mmh. On se rend compte que finalement, placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, c'est une décision qui n'a pas l'air si simple, en tout cas pour l'Union européenne, puisque suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 de ce lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé qu'à ce stade, les 27 ne pouvaient pas décider de placer les gardiens de la révolution sur leur liste des organisations terroristes et que cette décision ne pouvait être prise sans tribunal. Alors par conséquent, comment ça va se dérouler et devant quel tribunal il faudra aller ?
Ah ben, il y a beaucoup d'intérêts qui jouent ici. L'Allemagne, la France ont essayé très très vite, dès qu'il y a eu un changement de régime en Iran, d'avoir des accords économiques importants, de vendre des avions, de pouvoir recevoir de l'énergie de l'Iran, qui a du gaz, qui a du pétrole. Et donc, il y a des intérêts ici qui sont très, très forts. Et ceux qui jouent, c'est pas la lumière de la morale et de la justice que ces décisions sont prises, malheureusement, en Europe.
Merci beaucoup, Efraïm Herrera, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en histoire des religions et spécialiste du djihad. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Le djihad de la théorie aux actes ». Merci beaucoup pour vos éclairages.
Merci.